Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du Microéconomique. Aujourd'hui, je vais interviewer Jean-Joseph Boyau, spécialiste de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique.
Bonjour Jean-Joseph Boyau. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant que je commence?
Voilà, je suis économiste, mais plus largement, hein, je suis professeur de sciences sociales. Je crois beaucoup à cette approche qui essaye de comprendre la vie économique au travers d'une approche pluridisciplinaire. Et quand je dis sciences sociales, j'y inclus les mathématiques qui sont pour moi un outil extrêmement puissant. Je suis issu du rang. Je suis quelqu'un qui a commencé à travailler à l'âge de 15-16 ans et qui progressivement, par une interaction entre l'expérience professionnelle et puis le désir d'études et passer CAPES, puis d'agrégation, dont j'étais le major, puis j'ai voulu faire une thèse, et pour ça, j'ai à la fois travaillé travaillé avec un centre de recherche qui s'appelle le CEPI, et j'ai fait une thèse sur le modèle économique de l'Inde et de la Chine comparée, avec une thématique qui était le défaut des mathématiques. Enfin, pas des mathématiques, de l'économie standard était de considérer que les mêmes modèles devaient s'appliquer à l'ensemble des pays. Et ensuite, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années l'économie, notamment à Normale Sup Saint-Cloud. Et ensuite, je suis devenu un praticien de l'économie. Je pense qu'il est très important que des économistes rentrent dans le monde concret des decision makers, si j'ose dire comme cela. Au niveau international, ça voulait dire la diplomatie économique. Donc, au niveau du ministère des Finances, il y a un réseau des conseillers économiques, qui dépend maintenant du Trésor. Et donc, j'ai eu la chance, pendant une quinzaine d'années, d'être conseiller du directeur des relations internationales du ministère des Finances sur les grandes zones émergentes du monde. D'abord, les pays de l'Europe de l'Est, l'ex-URSS, puis ensuite le monde chinois et enfin le monde indien. Et depuis maintenant 2006, j'ai décidé de prendre le temps de coucher sur le papier ce qui me semblait être les expériences, les leçons que je pouvais tirer de mon expérience à la fois d'enseignant et pratique. Et je suis donc un expert à titre individuel qui est assez sollicité sur l'interaction entre la Chine, l'Inde et l'Afrique, qui me paraît un continent du 21e siècle, à regarder de très près.
D'accord, merci. Alors je vais passer à la salve des questions que je pose à tous les économistes. Alors, si vous deviez choisir un seul objectif politique, lequel serait-il?
Je partage vraiment cette idée du bien-être, welfare, vraiment ce qu'on appelle le bien-être. C'est pas très compliqué en réalité à calculer, c'est très difficile à atteindre, notamment non pas le welfare, je dirais, collectif abstrait, c'est le welfare de chaque individu, mais je pense que c'est. Nous disposons d'une batterie d'indicateurs qui permet aujourd'hui de mesurer ce welfare, à la fois ce qu'on appelle l'espérance de vie, la qualité de la vie, etc. Ça me paraît être l'objectif de la politique économique.
D'accord. À l'aune des intérêts de quel groupe est-ce que vous jugez les mesures économiques?
De par mon origine et ma vie professionnelle, je reste persuadé que si ce qu'on appelle le bottom 20%, hein, les 20% de la population située au bas de l'échelle sociale n'est pas intégrée de façon positive au jeu économique, alors la politique économique ne peut que échouer.
Et quand vous dites les 20% ces 20%-là, c'est les 20% à l'échelle mondiale, j'imagine, ou à
Bien
l'échelle.
sûr, bien sûr. Si je travaille à l'échelle en économie internationale, c'est que ce qui me paraît évidemment important, c'est qu'on ne peut pas avoir un welfare au niveau d'une micro-unité. Dans ce cas-là, il suffit de prendre le Luxembourg comme objectif du welfare et on sera tranquille, mais le regarder à l'échelle de la planète, bien sûr.
D'accord. Alors, quels sont les principaux principes politiques auxquels vous croyez?
Écoutez, je crois que je suis très attaché à l'idée d'économie de marché. Je pense que c'est une puissante trouvaille, découverte. C'est une puissante institution parce que je ne crois pas du tout, mais pas du tout, en la capacité d'une sorte d'État bienveillant d'assurer cet objectif de welfare, de bien-être pour la collectivité. Pour moi, l'institution de l'économie de marché a l'avantage d'être décentralisée et de donner des informations que rien ne peut remplacer. Économie de marché. Et en même temps, on sait bien que l'économie de marché ne peut jamais être comme dans les livres standards, pure et parfaite en termes d'information, de position de chacun des acteurs. Et donc, il y a un autre concept que j'adosse à ce principe d'économie de marché, c'est ce qu'on appelle la régulation. Je suis assez attiré par ce qu'a écrit pendant de nombreuses années l'école française de la régulation, qui se traduit mal en anglais. Il n'existe d'ailleurs pas en réalité un concept équivalent. Regulation, ça veut dire quelque chose de différent. Mais je pense que l'économie de marché et régulation de cette économie de marché sont les deux principes pour moi, pour un économiste en tout cas, qui me paraissent incontournables.
D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais, regulation?
Régulation, ça veut dire beaucoup plus réglementation.
D'accord.
Ce sont des règles. Alors que le principe physique en français de regulation, c'est la régulation de systèmes dynamiques.
Quelles mesures politiques défendez-vous?
Alors, je n'ai pas bien compris ce que vous appelez par politique, car nous
Ou
sortons
économique?
évidemment
Oui,
là,
c'est
eh
ça.
oui, nous sortons. Soit vous avez la politique économique, soit vous avez la politique. Si c'est en termes de politique économique, je dirais la bonne mesure politique économique, c'est de gérer au mieux la tension entre la liberté de chacun et le principe d'égalité. Il ne peut jamais y avoir de confusion entre les deux. Ce sont des concepts apparemment antinomiques, car la liberté se traduit de facto par des inégalités, etc. Et donc, essayer de tendre aussi vers l'égalité suppose au contraire une politique économique extrêmement active.
Mais quelles mesures concrètes est-ce que vous défendez?
Bien, par exemple, assurer le plein exercice de la liberté des marchés, ça suppose véritablement de faire en sorte qu'en permanence, les recompositions de monopoles, de non-transparence des marchés, de positions dominantes soient combattues. Deuxièmement, pour assurer l'objectif d'égalité, il faut bien contrebalancer les facteurs d'inégalité que crée le marché. Et donc, c'est ce que j'appelle la tension entre le principe de liberté et le principe d'égalité.
D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à la garantie aux conditions nécessaires au bien-être à tous les humains, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins, à l'éducation?
Qui ne serait pas favorable? C'est une question qui est apparemment
C'est
bizarre.
une question un peu évidente,
Mais,
ouais.
je vais aller au-delà. Je pense qu'effectivement, a vraiment disparu de l'horizon de la plupart des économistes ce principe qui me paraît essentiel de ce qu'on peut appeler les besoins essentiels, basic needs. On reviendra sur la définition de ce concept par Amartya Sen. Mais ça me paraît effectivement quelque chose que tout économiste devrait avoir comme point de départ de son travail.
Que pensez-vous de la création de monnaie par le don, alors qu'actuellement la monnaie est uniquement créée par la dette? L'idée ici, ce serait de créer de la monnaie et de la donner aux gens qui en ont besoin, plutôt que de la prêter.
Écoutez, ce n'est pas vrai qu'en réalité, dans la vie, il n'y a pas une économie du don. je ne vais pas.
En fait, je pensais aux banques centrales, au système.
C'est ça, mais.
Au système dominant. De...
Mais ça me paraît important parce que si vous. Si la banque centrale donne, finalement, ça revient à la même chose que quand on regarde l'effet du don. Alors, je vais prendre l'exemple. Le système des restaurants du cœur est quelque chose d'extrêmement important, mais qui donne en nature plutôt qu'en argent. Mais vous avez un certain nombre d'organismes qui font des dons. Le bilan me paraît extrêmement négatif. Parce que, en réalité, ce qu'on observe, c'est que c'est la négation même d'une partie de la nature humaine. Je suis assez attiré par tous les travaux d'anthropologues, de philosophes qui s'intéressent à ce sujet-là. On ne peut pas nier qu'il y a une nature humaine et que cette nature humaine, elle n'est ni positive ni négative, mais elle a plutôt comme principe premier, comme en physique finalement, le principe du moindre effort. Et en contrepartie du don, si vous n'avez rien, vous n'obtiendrez rien et à ce moment-là, vous n'aurez comme effet que de produire progressivement une sorte d'apathie d'une grande partie de la population qui bénéficierait de ce don. Donc je pense que si des banques centrales, ou des budgets, pourquoi des banques centrales, hein, des budgets, donner à chaque individu une quantité, comme vous l'indiquez, de revenus, hein, je crois qu'on va y revenir, on ne voit pas en contrepartie de cela pourquoi les individus se motiveraient. Voilà pourquoi je suis a priori assez opposé à l'établissement de ce revenu.
Enfin là, dans la création de, par le don que je propose, c'est uniquement pour pallier au déficit de conditions nécessaires au bien-être, c'est-à-dire pour assurer l'accès aux soins là où il y en a besoin, l'accès à l'eau potable. Donc on peut aussi voir l'effet inverse, c'est que on va mettre de la confiance dans les gens, on va leur accorder de la reconnaissance, donc ils vont justement profiter de ces...
Ce n'est pas ce qu'on observe. Et dans tous les pays que j'ai pu étudier, j'observe exactement le même mécanisme. Pour faire face à cet objectif de couverture des besoins essentiels par tous, je crois qu'il est préférable, plutôt qu'une transaction, on va dire, monétaire, d'assurer la fourniture de ces biens et services de base au travers d'institutions publiques, comme je trouve l'équivalent le plus intéressant à étudier, c'est celui de la fourniture de l'éducation nationale par le système français. Vous avez bien là la fourniture d'un service, le service d'éducation, et vous avez même un principe qui est celui de l'éducation obligatoire. On sait très bien que si l'éducation n'avait pas été obligatoire en France, vous auriez eu en réalité tout un ensemble de personnes, de familles, qui n'auraient pas pensé à mettre leurs enfants à l'école, parce qu'on sait bien que les parents n'ont pas spontanément en tête le bien futur de leurs enfants. De la même façon, on peut tout à fait imaginer la fourniture des besoins de logement, des besoins d'eau potable par des États. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on est condamné à penser que les administrations publiques sont incapables de fournir.
D'accord, mais dans ce cas-là, comment est-ce que ce serait financé, cette éducation, ce logement? Parce que on voit que si c'est fait au niveau national, les pays pauvres, me semble, n'ont pas la capacité de financer.
De la même façon qu'au niveau national, vous avez des principes de redistribution. On comprend très bien qu'à l'échelle internationale, des mêmes mécanismes, des mécanismes équivalents de redistribution peuvent jouer. Jusqu'à présent, le rôle qui était dévolu à la Banque mondiale en particulier pour assurer cette redistribution est très très faible. Donc c'est là-dessus, manifestement, qu'on doit absolument travailler pour éviter que la redistribution ne fonctionne qu'à l'intérieur d'États nationaux, mais je crois qu'on va y revenir d'accord. dans vos questions.
C'est vrai qu'en fait, je pense qu'on est d'accord parce que moi, là, je n'ai pas détaillé parce que c'est un paragraphe assez long, mais dans ce que j'imaginais comme création par le don, ce ne serait pas de donner de l'argent directement aux gens, mais ce serait plutôt de leur donner des services et des biens, mais de financer ces services eux-mêmes par de la création monétaire plutôt que par une réforme fiscale à échelle internationale parce que ça passerait mieux auprès des dirigeants. Mais c'est vrai que l'un est relativement équivalent à l'autre. Alors, question suivante. On y a déjà un peu répondu. Enfin, est-ce que vous êtes pour un revenu de base au niveau du revenu de subsistance?
Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne peux pas justifier la totalité de ma réponse. Mais, a priori, je ne suis pas pour l'instauration d'un revenu universel. Je trouve que finalement, c'est une institution, c'est une proposition qui permet de mettre de côté une partie croissante en réalité de la population qui ne trouve pas d'emploi. C'est le grand risque de la société vers laquelle on va, qui est parce que le travail est distribué d'une certaine façon, elle tend à exclure de plus en plus d'individus qui n'ont pas, entre guillemets, le niveau de productivité requis dans ces usines de plus en plus high-tech. Et c'est ça qui m'inquiète. Le travail est un élément essentiel de socialisation des individus et autant, je dirais, que de distribution d'un revenu. Ce que j'observe, c'est que dans tous les pays, et notamment en France, on dispose d'un revenu dit minimum, garanti. La plupart des gens qui bénéficient de ce revenu sont en réalité des gens désocialisés. Et donc, ce qui me paraissait une bonne idée me paraît aujourd'hui extrêmement pervers.
D'accord.
Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour l'instauration d'allocations, ça c'est tout à fait différent, avec cette idée que les allocations doivent permettre effectivement de couvrir les besoins de base. Mais vous avez vu comme moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une très grande partie des besoins de base devraient en réalité être couverts par des systèmes publics, comme je vois en Inde, on a par exemple des distributions de produits alimentaires, de gaz, etc., à des prix extrêmement bas, permettant à tous d'y avoir accès. Donc je préfère ça plutôt que ce principe finalement de donner à chacun une certaine somme en leur disant « débrouillez-vous ».
D'accord. Est-ce que vous êtes pour l'instauration d'un revenu maximal mondial ?
Alors, je n'ai pas bien compris la question. Si vous voulez dire qu'il ne devrait jamais y avoir d'individus, de familles qui disposent au-delà hein, d'une certaine limite,
oui, c'est ça.
Eh bien non, moi je suis pour la liberté, donc je pense que dès lors qu'une économie de marché est bien régulée, ça m'est complètement égal si quelqu'un par soit ses qualités, soit souvent par ses opportunités, etc., atteint des niveaux de revenus considérables. Par contre, je pense que ce qu'avaient montré les pays nordiques est que une fiscalité progressive est tout à fait acceptable. Et le problème, par contre, qui se pose, c'est que ce schéma n'est jouable que si, à l'échelle internationale, il y a une sorte de consensus pour considérer ce que on peut appeler les tranches progressives de l'impôt. Donc, je suis pour le revenu maximal. Pourquoi ? Parce que c'est compatible avec, un, la liberté de chacun, et deux, parce que nul ne sait à l'avance quelle peut être la contribution marginale d'un individu. C'est extrêmement complexe. Or, ce qui nous intéresse, c'est aussi le bien-être de la collectivité. Et le bien-être de la collectivité passe forcément par des contributions individuelles qui peuvent parfois surprendre. Je vais prendre un exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat. On sait très bien que le progrès est très nettement corrélé à des individus qui, pour des raisons X et Y, peu importe, se sont lancés, ont trouvé des trucs, etc. Et donc, il faut absolument laisser à ces individus, on va dire, la liberté de se lancer dans. C'est mon jugement, mon opinion est fondée sur la connaissance intime que j'ai des mécanismes qui étaient en œuvre dans l'ex-URSS ou en Chine. On voit bien que ces systèmes ont échoué en partie sur ce point-là. Donc il vaut mieux une fiscalité progressive.
Oui, mais si on passe le revenu maximal à, je sais pas, 10 millions d'euros par an, même
Pourquoi
là.
voulez-vous fixer une limite?
Non, d'accord. Êtes-vous pour une démocratie mondiale?
Alors, j'ai pas bien compris. Tout le monde est pour la démocratie, mais quand vous dites mondial, vous voulez dire que c'est un organisme qui, à l'échelle mondiale, serait élu démocratiquement, si je comprends bien, et qui pourrait prendre donc des décisions qui s'imposeraient à tous.
Oui, alors pas forcément dans tous les domaines, mais en tout cas sur les domaines dont, où l'échelle mondiale est pertinente.
Alors, pour avoir bien étudié ce qu'on appelle la démocratie, on sait bien que la démocratie n'est jamais l'expression du pouvoir du peuple. C'est toujours une démocratie représentative.
On peut imaginer d'autres formes de démocratie.
Oui, pour l'instant, on n'en connaît pas d'autres.
Oh bah,
On élit, n'est-ce pas? À moins que vous vouliez me donner un autre système, mais en général, on élit nos représentants.
On peut imaginer la démocratie directe.
Ah ben dans ce cas-là, la démocratie directe sur un sujet comme par exemple l'environnement poserait bien évidemment le problème simple suivant, c'est que vous allez décider par la règle de la majorité. Or,
Pas
le principe,
forcément.
ben oui,
On
mais...
peut tout imaginer.
ah ben oui, quel est l'autre principe de prise de décision, puisque la démocratie, c'est la
Majorité à
prise de décision.
70%.
Eh bien, et les 30%. La démocratie, elle repose fondamentalement non pas sur la règle de la majorité, mais sur la règle de la protection des minorités, quand on y réfléchit bien. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de régimes sont arrivés en réalité au pouvoir par la règle de la majorité. Et ça m'est très difficile de parler là de démocratie. Donc je suis en plus dubitatif parce que j'aime bien ce qu'écrit Dany Rodrick sur le principe justement de la démocratie. La démocratie suppose que vous ayez un principe local. La démocratie ne peut véritablement prendre forme que lorsque elle est décentralisée. Le risque, sinon, c'est que des milliards d'êtres humains vont, on va dire, élire leurs représentants, mais les milliards d'intérêts différents, on va partir du principe que chaque individu a des intérêts différents et a notamment des échelles de préférences différentes, va être complètement écrasé. Et à ce moment-là, on va, comme dans les films américains, déboucher sur une sorte de gouvernement, même pas technocratique, mais qui aura été capté par ceux qui seront les plus à même de manipuler cet exercice extrêmement délicat qui est la chaîne des représentations. Donc je préférais qu'on conserve le principe assez proche des Nations Unies, où on est dans l'international, et de favoriser au contraire le principe de la démocratie à l'intérieur de chacune des nations.
Et les nations, ce serait suffisamment petit pour que la démocratie soit efficace?
Dès lors que dans les nations, si je prends des grands pays comme le Nigeria par exemple, qui font 180 millions d'habitants, qui vont aller vers 400 millions d'habitants, dès lors que ces grands ensembles, comme les États-Unis aujourd'hui, donnent et confirment la garantie que la prise des décisions à l'intérieur de cet ensemble soit effectivement démocratique. Et que lorsqu'ils vont prendre des positions au niveau international, ils vont pouvoir exprimer non seulement une position majoritaire, mais aussi une position des minorités de ces pays-là. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. En tout cas, je peux vous dire, il ne peut pas y avoir, à mon sens, de démocratie mondiale au sens politique du terme. Elle doit jouer sur l'articulation entre l'échelle politique, on va dire traditionnelle, qui par définition, nécessairement, dès lors que c'est l'État-nation, va reposer, va avoir des biais fort, même si on fait attention à ce que le droit des minorités soit respecté. Et donc, il y a un deuxième pilier qui est une sorte, et on le voit bien avec les forums aujourd'hui, on va dire, de citoyens du monde. C'est extrêmement important qu'il y ait, on va parler des ONG, même si le mot peut prêter à confusion derrière, il y a quand même beaucoup de choses à boire et à manger derrière. Mais le fait que les individus, les citoyens puissent s'exprimer directement en dehors de l'État-nation me paraît extrêmement important. Et puis il y a un troisième pilier, c'est qu'il ne peut y avoir de démocratie que s'il y a une presse, une information qui soit véritablement libre.
Et est-ce que vous ne croyez pas que si la démocratie reste dans le cadre des États-nations, les États-nations vont continuer de défendre leurs intérêts
Mais c'est la raison pour laquelle je vous dis, c'est un triptyque. Ouais. Il y a l'État-nation parce que c'est incontournable, il faut un lieu, une localité. La démocratie doit pouvoir commencer véritablement dans le monde entier par le village, ou la ville, etc.
La libre presse.
Le triptyque, c'est le principe géographique. Le principe géographique est essentiel. Et l'empilement du local au national, c'est ce qu'on appelle l'État-nation. Le deuxième, c'est le principe de liberté des individus d'adhérer à l'organisation de leur choix. Donc c'est le principe, on va dire, des ONG, qui doivent pouvoir être, dans les instances internationales, être invitées à part entière. Et enfin, troisièmement, c'est le principe essentiel à la démocratie, c'est la libre circulation de l'information. Et croyez-moi, c'est un vrai problème aujourd'hui.
D'accord, mais je ne suis pas convaincu que si on reste dans ce cadre-là, il y aura suffisamment de contre-pouvoirs aux États-nations, justement, pour éviter que...
Les ONG, aujourd'hui, commencent à représenter un contre-pouvoir non négligeable. Les réseaux d'information privée par l'Internet commencent à représenter aussi, je rappelle, des campagnes de masse, commencent à représenter un contre-pouvoir. Je suis bien d'accord avec vous qu'il faut un contre-pouvoir aux États-nations, mais c'est un lieu démocratique incontournable. Sinon, vous vous rendez compte, 10 milliards d'êtres humains seront gouvernés au nom de la démocratie universelle par, on sait bien, quelques népotiques qui auront pris ce pouvoir.
Est-ce que c'est pas déjà le cas?
Alors non, précisément parce que, par mon expérience dans la diplomatie en général, on va dire, j'ai observé que il y avait véritablement des confrontations, des oppositions, des décisions qui se prenaient un champ de pression qui n'était pas celui seulement des États-nations, mais qui était aussi celui des sociétés civiles. Donc je pense qu'il n'y a pas de système parfait, comme c'est Churchill qui disait ça, et il avait raison, la démocratie c'est le moins imparfait des systèmes. Simplement lui s'inscrivait dans celui de l'État-nation démocratique, donc système classique de représentation, et il n'avait pas à l'époque, mais le problème se posait moins à l'époque peut-être, conscience de ce que la vie politique nationale donne lieu à la constitution de groupes d'intérêts qui eux-mêmes divergent de l'intérêt national, on le voit dans tous les pays du monde. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose avec laquelle tout le monde serait d'accord?
Oh, droit au bonheur, je crois qu'il n'y a pas... Je ne vois pas d'autre chose sur lequel 100% des gens seraient d'accord.
D'accord. Est-il important d'augmenter le PIB?
Oui et non, c'est un peu un faux débat, parce que la mesure du produit intérieur brut national est quelque chose qui pose problème dans la mesure où c'est une agrégation de contributions positives et on le sait bien, de contributions aussi négatives que... il ne substrait pas les dégradations liées à l'augmentation du PIB. Bon. Donc, il n'est pas important en soi d'augmenter le PIB. Par contre, je pense que l'humanité tout entière, moins dans les pays riches, mais dans tous les pays que je traverse, je peux vous dire que je ressens vraiment ce besoin-là, il y a vraiment un souhait d'améliorer la vie quotidienne, d'avoir de l'eau courante, d'avoir des moyens de transport plus ou moins faciles, etc. Et d'une certaine façon, le PIB, si on pouvait le corriger, ça serait pas si mal, d'accord, dans sa mesure, hein, mais le PIB est quand même une condition, les gens disent, nécessaire mais non suffisante à ce cheminement vers le bonheur. Donc je suis pas totalement opposé à l'idée qu'on peut augmenter le PIB, et tout dépend après, on le voit bien dans les études qui mettent en relation le PIB et le bonheur, quel est le niveau absolu que vous obtenez en termes de PIB par habitant. On voit bien que, si vous voulez, dans les phases initiales, donc de très bas PIB par habitant, vous avez une progression marginale très forte du sentiment de bonheur, et on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on remonte dans les niveaux de PIB par habitant, les variations de PIB n'ont pas de contrepartie équivalente en termes de satisfaction de la vie et de bonheur.
D'accord. Quel livre conseillez-vous ? Livre d'économie.
Oui, oui. Je m'appuie, moi, beaucoup sur deux économistes qui m'ont, depuis mes travaux de thèse, vraiment marqué et qui m'ont marqué toute ma vie de recherche. D'une part, Albert Hirschman. Albert Hirschman, quelqu'un qui, je crois, a vu très juste sur non seulement les limites de la science économique classique, orthodoxe, dans les phénomènes de développement. Or, en fait, l'économie devrait s'intéresser plus quand même au développement. Et il a aussi, dans les sciences sociales, en termes, je dirais, sociologiques, philosophiques, interrogé beaucoup de concepts sur le lien entre, justement, l'économie et la morale, etc. Donc, Albert Hirschman est quelqu'un qui m'a beaucoup frappé, et si dans ces différents ouvrages, il y en a à lire, j'en cite souvent deux. Le premier, c'est la théorie du développement économique, et le deuxième, c'est Exit Voice Loyalty, et je ne sais plus en français comment ça a été traduit, mais qui date probablement à peu près de la même époque, je crois 1961, et l'autre c'était 1958. Ça, c'est le premier auteur, et les deux premiers ouvrages. Sinon, dans la période postérieure, j'ai découvert Amartya Sen. Et je reste extrêmement séduit, intéressé par la puissance des travaux d'Amartya Sen sur les fondamentalement la définition du développement comme liberté. Chose que n'avait pas fait du tout Albert Hirschman en termes de finalité.
Quel livre de Amartya Sen ?
On a Economic Freedom, hein, qui est, je crois, vraiment son grand classique. Et puis, un livre qui m'a énormément marqué, qui est un livre un peu plus récent, qui est un livre peut-être plus de philosophie, on va dire, politique et économique, qui est, alors, toujours confusion entre traduction en français et puis le titre anglais, qui est sur le principe d'équité à l'échelle internationale. C'est, je n'ai
c'est pas,
plus...
C'est pas développement, justice, liberté.
Alors, en français, ça a été traduit comme ça. Ce n'est pas un très bon titre. D'ailleurs, je suis très étonné de la façon...
Je crois que c'est un sous-titre, d'ailleurs, j'ai oublié le
vrai titre. Ouais. Et qui est évidemment absolument essentiel parce qu'il répond à votre question sur la démocratie mondiale. Il vous montre que les différents espaces culturels dans le monde n'ont pas les mêmes principes en termes conception de liberté, conception d'égalité. Et qu'on ne peut pas donc facilement décrire des principes universels de justice, puisqu'en fait c'est le cœur de son livre, c'est sur la justice. Et puis en termes, je dirais peut-être anecdotiques, mais le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est de travailler 2 heures par jour. C'est un collectif qui a écrit ça dans les années 70-80. Et qui montrait, alors, peut-être dans la poursuite des travaux d'Yvan Illich, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, comment, en réalité, chaque individu sur Terre, en travaillant 2 heures par jour maximum, pourrait tout à fait faire face à ses besoins essentiels et à ses besoins en général. travailler 2 heures par jour. Après, je me suis posé la question, pourquoi nous n'arrivons toujours pas à cet objectif? Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que si vous prenez la totalité de la force de travail disponible dans un pays comme la France, et que vous le divisez par ceux qui ont un emploi, vous obtenez à peu près ça. C'est-à-dire qu'on est finalement, et ce livre était vraiment précis, on est prescience, on a en moyenne, en France, par adulte, une contribution de 2 heures par jour. Simplement, c'est réparti de façon totalement inégalitaire. Vous avez l'équivalent de, on va dire, 8 à 10 millions d'actifs qui sont dans le monde du travail de plus en plus tendu.
En 7 jours par semaine.
Oui, bien sûr, c'est sur les 7 jours par semaine. Hein. Et puis, vous avez 50 à 60 millions de personnes. Alors, vous enlevez évidemment les enfants. Mais aujourd'hui, par exemple, on a des gens qui ont 50, 55 ans, qui sont mis dans des pré-retraites. Et on le voit bien, qui s'ennuient à mourir, qui se retrouvent seuls, etc. Donc, je pense que il y avait derrière ce livre ce que Ivan Illich avait vraiment travaillé dans les années 60, il y avait une proposition extrêmement forte au moment même où, sous Mitterrand, puisque c'était les années de Mitterrand, sur les 35 heures, déjà, ça, on n'arrivait pas à faire passer la mesure.
Alors, justement, combien d'heures travaillez-vous? Comment s'organise votre journée type?
Alors, c'est pour ça que je suis sensible au principe de liberté. Il s'avère que moi j'aime travailler, ça fait partie vraiment de mon bonheur de vivre et finalement ma famille s'y fait, on a trouvé ses équilibres, etc. Donc je travaille peut-être 12-14 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais ce qu'on appelle le travail, c'est par exemple pour moi d'aller comme la semaine dernière à Kinshasa au Congo, d'aller visiter les alentours de Kinshasa et puis de Katanga. Alors je les inscris dedans, ça, parce que c'est lié évidemment à mon travail, je ne vais pas tricher, même s'il peut y avoir un moment de tourisme spécifique qui ne serait pas relié à mon travail, mais c'est très très faible. Comment je m'organise? En gros, je me lève toujours tôt le matin, parce que c'est vraiment là que j'ai l'esprit clair. Et c'est pour moi la phase où je vais absorber les informations. Le matin est vraiment lié à cela. Écoutez. Donc j'écoute beaucoup la radio, je ne regarde jamais la télévision, quasiment. Exceptionnellement des films importants, mais pour l'essentiel c'est quand même la radio, et notamment les radios internationales. J'écoute beaucoup les radios internationales, j'ai l'avantage de parler 7-8 langues et donc de pouvoir écouter aussi d'autres radios. Et ensuite, j'ai une phase où je réponds beaucoup aux courriers. Vous savez qu'avec l'Internet, c'est devenu quelque chose qui est pas seulement l'enveloppe qui arrive chez vous, mais vous recevez beaucoup de courriers. Donc moi, je reçois 200-300 mails par jour. Donc il faut que je le trie et je le fais plutôt le matin, parce que ça me paraît bien de ne pas être ensuite pris toute la journée à chaque fois qu'il y a une enveloppe qui arrive, en gros un email qui arrive, répondre à ça. Donc c'est le matin que j'y réponds, et ça me paraît important aussi pour moi parce que ça organise ma vie. C'est-à-dire que selon le courrier que je reçois, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, une façon, une sorte de vote, si vous voulez, de ce que je peux faire, ce que je peux apporter. Vous savez, rarement vous recevez des nouvelles, des mails de gens qui ne sont pas contents de vous. Hein, donc ça me permet de mesurer, alors je suis très content, hein, mais de mesurer ce que je peux apporter. Il y a aussi beaucoup de courriers qui sont de l'information sur les 200 à 300 mails, peut-être une centaine, ce sont des informations que je reçois. Donc ça complète la partie de matinale plutôt liée aux radios. Quand je suis en France, je ne lis plus de journaux papier du tout, la presse française est extrêmement médiocre à mon sens. Par contre, quand je suis dans des pays comme l'Inde, je lis les journaux, en Chine, il n'y en a pas. En Afrique, il y a toujours dans les pays où je suis, 2-3 journaux qui sont vraiment pour moi très utiles. Donc, je lis beaucoup de journaux dans ces pays-là. Mais voilà, ensuite les mails. Ensuite, j'ai une phase où j'écris tous les jours à peu près tous les jours une petite note, quel que soit le sujet. Alors, l'avantage, c'est que je suis très sollicité, donc c'est souvent sous la contrainte que j'écris une petite note. Et puis, en général, passé 13 heures, je fais vraiment un break important. Je pense que de 7 heures à 13 heures, c'est 6 heures concentrées, et donc je fais un break important, et c'est là où, après le déjeuner, je lis toujours. Une ou deux heures, au moins. La lecture, pour moi, c'est vraiment... Et la lecture des livres. Je lis assez peu sur Internet. J'aime bien le livre. Et donc, j'ai la chance aussi, comme on en voit beaucoup, que j'en commande un certain nombre. Et donc, la lecture, pour moi, c'est vraiment la clé. La clé. La lecture, parce que c'est le moment où vous réfléchissez en même temps que vous lisez. Hein. Et puis ensuite, l'après-midi, très souvent, il y a quand même sortir. Donc, il y a tous les jours... soit des rendez-vous personnels, soit des conférences, des séminaires, des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est important. C'est mieux quand c'est l'après-midi que le matin. Je suis amené parfois à les supprimer quand c'est le matin, parce que je trouve que ça me fait trop vite plonger dans cette phase-là. Et ensuite, quand on revient, on ne se remet pas à son rythme. Et puis, je ne suis plus un travailleur du soir. Il fut un temps où j'écrivais essentiellement le soir, et donc ce n'est plus le cas. Là, je peux probablement expliquer ça. Et donc, après le dîner, j'ai une deuxième phase de lecture. Et là, je lis, c'est très séparé. Je lis, on va dire, l'après-midi, des livres, entre guillemets, utiles, professionnels. Et je lis le soir, essentiellement, des romans, des textes de ce type-là. Et notamment, j'ai découvert à quel point les bons romans, et il y en a beaucoup de très bons romans, même des romans policiers, était un ingrédient essentiel pour comprendre la vie.
D'accord.
Sinon, il y a une autre façon de voir mon emploi du temps, qui est que, en gros, je passe 6 mois par an à voyager sur mes terrains d'enquête. Je passe à peu près 4 mois par an à écrire. Et donc, notamment, je me suis vraiment mis un endroit en Normandie où j'ai toute ma bibliothèque et où j'écris. Et je passe 2 mois par an ici en France, à peu près comme ça, j'ai fait le décompte pour conférences, rencontres, etc.
D'accord. Quel est le travail le plus intéressant que vous avez fait?
Je ne peux pas répondre à cette question-là, parce qu'elle fait vraiment partie de ce genre de questions qui n'ont pas de sens. Est-ce que vous aimez le salé ou le sucré? Quand vous posez cette question, genre, par contre, non, je vais vous répondre. Quels sont donc les travaux les plus intéressants que j'ai faits? Et j'ai fait 3 choses qui, dans ma vie, moi, m'ont passionné. Premièrement, voyager. Découvrir le monde. C'est quelque chose qui m'a enrichi d'une façon époustouflante. Je pense que la France est un pays qui vit de façon extrêmement fermée, finalement, sur elle-même, qui pense que c'est le pays le plus avancé du monde sur le plan conceptuel. Découvrir les cultures chinoises... indienne, africaine, latino-américaine, c'est-à-dire des façons différentes de vivre, a été pour moi assez extraordinaire, indépendamment des aspects privés, de rencontrer des gens différents, de manger différemment, etc. Voyager. Deuxième chose...
Vous êtes revenu en France, finalement?
Non. Je suis, à l'heure actuelle, en gros, vous voyez, je vous ai dit 6 mois par an en voyage, et j'ai 4 mois où je suis en France, mais ça s'appelle, en fait... la Normandie, c'est une partie très particulière, et puis deux mois à peu près à Paris, région parisienne. Donc, je dis souvent, ce n'est pas parce que vous êtes né en France, ça c'est un accident d'histoire. Vous n'avez pas choisi, vous, en termes d'individu. Et donc, je dénie à quiconque le droit de m'appeler français. J'ai le sentiment d'être un citoyen du monde, d'une planète. Et de partager autant de soucis et de bonheur avec les uns et les autres. Il s'avère que géographiquement, je suis un peu plus en France, mais comme je vous le disais, en réalité, quand j'écris, je ne suis pas en France, et je vais dire Paris, parce que je ne vais pas dire à mes amis de Lyon, de Marseille ou de Tours que je suis chez eux avec eux. Hein, j'y vais souvent en conférence, mais... Donc, premièrement, voyager, pour moi, ça a été l'ouverture. Deuxièmement, le travail... Le plus intéressant, ça a quand même été dans la diplomatie. Parce que dans la diplomatie économique, vous découvrez quelque chose qui n'est dans aucun textbook, qui est que les prises de décision sont extrêmement hiérarchisées, structurées, et que ce qui manque fondamentalement à la science économique, j'exagère, elle s'est modernisée, elle a essayé de prendre en compte ça, etc., c'est qu'évidemment, l'agent rationnel, ça n'existe pas en réalité. Il est à l'intérieur d'une société où il y a des tas de gens qui vont prendre des décisions pour lui. Et de ce point de vue-là, il est intéressant de voir qu'un des derniers prix Nobel a été un non-économiste, c'était un psychologue, Handelman, je crois que c'était...
Kahneman.
Hein. Et que s'il a été prix Nobel, c'est pas pour rien quand même. C'est qu'il a démontré que le principe fondamental sur lequel se basent les économistes n'a absolument aucune pertinence. L'essentiel des décisions que nous prenons, alors c'est là où je reproche à cet économiste de ne pas avoir intégré ça, mais l'essentiel des décisions que nous prenons, ce sont des décisions, on va dire, par habitude. Et deuxièmement, ce sont des décisions qui sont en réalité prises par d'autres. Voilà, ça c'est mon deuxième... deuxième. Et puis le troisième, donc voyager, c'est... la deuxième chose, je vous ai dit,
la diplomatie,
oui. Prise de décision. Et la troisième, le travail le plus intéressant, c'est évidemment la lecture et l'étude, la recherche. Mm-hmm. C'est-à-dire, il est indispensable à un moment donné de se poser et de réfléchir aux instruments qu'on utilise pour réfléchir. Donc vraiment, c'est important ça.
Dernière question que je pose à tous les économistes. Est-ce que vous êtes satisfait de l'enseignement de l'économie actuellement?
Ça serait un peu du bashing de dire non. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas vu comment était enseignée l'économie, donc je ne peux plus me prononcer sur ce qui est enseigné aujourd'hui. Mais je passe de temps en temps dans les universités quand même, ou dans des grandes écoles, pour donner des cours. Et donc, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on a à la fois une assez bonne formation théorique, et encore, ça dépend où. Mais on va dire dans les grandes écoles, dans les universités, je pense que c'est très douteux, mais que c'est assez désastreux. C'est une formation qui ignore, un, la réalité de la vie, totalement abstraite. Deux, c'est une formation qui ne donne pas suffisamment aux jeunes, aux étudiants, la capacité de produire par eux-mêmes de la connaissance. Et donc, l'école française est une école élitiste où il faut apprendre par cœur, on va dire. Hein, et ça reste fondamentalement ce système éducatif. Quant à ce qui est l'économie, en France a été schizophrénique. On a eu d'un côté l'école des ingénieurs, où vous aviez là essentiellement des matheux, des physiciens qui étaient recrutés dans les écoles polytechniques, qui eux-mêmes allaient à l'ENSA, etc., où l'essentiel était de maîtriser les mathématiques, l'économétrie, pour ensuite faire de l'économie. On n'est pas dans l'économie du tout, là. On est dans une partie de la science économique qui est, et que je ne conteste pas du tout, qui est utile en réalité à toutes les sciences, qui est le principe d'économie. Simplement, on a tendance à demander à ces gens-là, et ils ont tendance à se servir eux-mêmes, à vouloir appliquer ces schémas à la totalité de la vie économique, alors qu'on sait bien que la vie économique repose précisément sur des réalités différentes. Et puis on a eu, d'un autre côté, un deuxième type d'enseignement d'économie qui était pour l'essentiel de l'idéologie. Pour l'essentiel de l'idéologie. Et quand je vois dans les écoles secondaires les livres qui sont donnés aux élèves, je suis estomaqué de voir à quel point, c'est vrai, les critiques qui sont faites contre cela, on est dans un univers où on est plus dans la discussion politique que dans l'observation des phénomènes, la mesure des phénomènes. Et ensuite, bien sûr, on peut faire exercer des jugements. Mais il faut d'abord, évidemment, bâtir de façon robuste. Donc cette France de schizophrénique, on le retrouve finalement à l'échelle politique et à l'échelle du débat public. C'est une France qui est extrêmement idéologique dans tout, c'est-à-dire que dès que quelqu'un dit quelque chose, on lui pose la question de savoir finalement de quel parti il est. Et les gens qui prennent des décisions, ils le prennent dans les cabinets secrets, sans en référer du tout aux uns et aux autres, et dans le cadre de groupes d'intérêts qui ont été formés au sein de l'élite française. Et cette élite française, fondamentalement, pour ce qui est de l'économie, elle est orthodoxe et foncièrement séduite par les modèles que ces polytechniciens vont avoir développés.
D'accord. Alors ça nous laisse peu de temps pour les questions relatives à votre spécialité. Dites-moi si c'est une bonne ou mauvaise question, mais je vous demandais quelle est la politique idéale de développement. C'est une mauvaise question.
Non, c'est pas du tout une mauvaise question. Je la reformule simplement en disant comment l'Inde, la Chine et l'Afrique voient, tel que je le perçois aujourd'hui, hein, pour eux, la politique de développement idéale. Et là, je répondrai, c'est assez simple, c'est l'avantage d'y passer l'essentiel de mon temps, deux choses. Premièrement, la politique de développement vise à donner à chacun de ces pays ou ces continents le droit à l'échelle de la planète à faire valoir leurs intérêts. Et c'est pas du nationalisme là, c'est simplement une préoccupation absolument essentielle. Ça rejoint tout à fait ce que dit Dany Rodrigue sur les politiques de développement efficaces. Deuxièmement, je crois que c'est probablement Amartya Sen qui a le mieux développé, moi j'ai appelé ça une théorie générale du développement, mais je retrouve finalement dans ces trois zones à peu près la même préoccupation, c'est ce qu'on définit comme étant le développement inclusif. Ce n'est pas égalitariste, c'est le développement inclusif. Faire que personne ne soit laissé sur le carreau, à la fois en termes d'emploi, en termes d'alimentation, en termes de droits fondamentaux, à l'éducation, etc. Et ce qu'il a écrit dans ce livre qui a été traduit mais assez mal encore, mais qui est Splendid India, point d'interrogation, qui est une critique précisément de la politique libérale mise en œuvre en Inde pendant la période de libéralisation 91-2009-2010, me paraît un consensus dans ces trois pays. Alors, c'est souvent choquant à propos de la Chine, parce que l'image de beaucoup de gens, c'est la Chine, c'est communiste et donc c'est totalitaire. Mais je pense, et là-dessus Amartya Sen le dit aussi, et on a vraiment là-dessus, je sens en convergence avec lui, on a eu des progrès démocratiques en Chine considérables, parce que précisément la politique de développement a été inclusive. Ça va ?
Je ne vois pas concrètement en quoi ça consiste une politique de développement inclusive.
Donc une politique de développement inclusive, c'est une politique de développement qui en permanence se pose la question, non pas de la maximisation du taux de croissance, mais de la maximisation de la participation de chacun au taux de croissance et à la répartition des fruits de la croissance. Ça veut dire, dans le cas chinois, je vais prendre l'exemple, pendant de très nombreuses années, puisqu'après il y a eu une certaine rupture, c'est évident, mais pendant de très nombreuses années, ça a été la couverture des besoins de santé de base, de logement, de nourriture, d'éducation, pour tous. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu un décollage chinois. Ce n'est pas le tournant de Deng Xiaoping en 80 qui a permis à la Chine de décoller. C'est les conditions initiales qui étaient réunies pendant les années Mao, de 1947 à 1980, avec, oui, on va dire des travers, des contreparties négatives, etc. Mais fondamentalement, la Chine, quand je la visite en 1980, c'est un pays pauvre en termes de PIB par habitant, mais c'est un pays dans lequel il y a eu une inclusion très forte. Pour l'Inde, là, on le sent bien, là, c'est, le schéma est un peu différent parce que c'est un pays démocratique, mais on voit bien que la démocratie a progressivement amené les basses castes, les basses classes, à faire valoir leurs intérêts et à amener progressivement sur le devant de la scène la satisfaction des besoins essentiels.
Et comment est-ce qu'on arrive à, je ne sais pas, mais imaginons que vous gouverniez, je sais pas, un pays d'Afrique. Comment est-ce qu'on arrive à couvrir les besoins universels de ce pays?
Ben, il existe des outils quand même extrêmement simples. Avoir une politique éducative de masse, ça passe par l'ouverture d'écoles primaires, puis d'écoles secondaires, puis d'établissements supérieurs en phase, hein, par exemple.
Et comment est-ce que ça se fait que ce soit pas fait? C'est un manque de financement? Qu'est-ce que c'est?
Non, ce n'est pas fait souvent, moins par manque de ressources en réalité, que par absence de volonté, de conscience des gens qui dirigent le pays pour le faire. Prenez l'exemple de la
Donc
France. Son système...
par manque de démocratie, en quelque sorte.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant, à un moment, ou une équipe dirigeante, a le souci de... Prenez le cas chinois, ce n'est pas vraiment de la démocratie, vous êtes bien d'accord
Oui.
avec moi, mais ce n'est pas la démocratie politique occidentale, c'est-à-dire qu'il n'était pas élu pour ça. Mais c'est la démocratie au sens où le Parti communiste chinois, Mao en particulier, était en permanence soucieux d'avoir le soutien. Si vous voulez, c'est la grande différence entre le système soviétique qui dégénère avec Staline et puis le système chinois pendant une quarantaine d'années. Le Parti communiste, même encore finalement aujourd'hui, est un parti qui a besoin de légitimité. Et c'est pour ça que je suis très suspect, pas suspect, mais comme on dit en français, sur le concept de démocratie. La démocratie, pour nous, c'est essentiellement un appareil formel où les gens votent. Mais il y a une façon dans la démocratie qui est de permettre au peuple, à la population, d'exprimer d'une façon ou d'une autre ses préférences. Et dans le cas chinois, c'est la façon dont ils le font. Dans le cas indien, c'est très différent, puisque là, on est dans un système représentatif de démocratie qui s'appuie quand même sur des élections, pas au niveau du village, c'est le grand défaut de la démocratie indienne, mais qui commence au niveau du district, ce qui est l'équivalent d'un département. Mais malgré tout,
Il y a des maires, non, au niveau...
non,
Non?
non, non. Les maires en Inde ne sont pas élus dans les villages. Ça, c'est le gros défaut de la démocratie indienne.
Parce que j'avais lu un livre de Esther Duflo où elle expliquait que dans un tiers des villages en Inde, on avait obligé une femme à être élue maire
Alors, c'est ce qu'on
et que
appelle les...
ça avait changé les relations
C'est
homme-femme.
tout récent. Et Esther est très gentille, mais elle a parfois quand même de mauvaises informations. C'est certainement pas un tiers des villages qui ont des panchayats. Ça s'appelle des conseils de village, des panchayats.
C'est peut-être moi qui ai
Beaucoup,
mal
non, non,
retenu.
beaucoup de panchayats. Non, c'est qu'elle voyage un peu beaucoup et qu'elle va pas beaucoup sur le terrain en réalité. Hein, donc il est possible qu'on lui ait donné une information et qu'elle l'ait pris en compte. Donc il n'y a pas énormément de mairies qui soient élues en tant que telles. Mais peu importe, la démocratie indienne a malgré tout des aspects positifs en termes de. Alors, la réduction de la pauvreté, les phénomènes d'exclusion n'ont peut-être pas été aussi rapides que dans un pays comme la Chine, sauf qu'en Chine, après une phase de réduction très forte des inégalités, on a eu au contraire une phase d'augmentation très importante des inégalités. Mais voilà, là c'est sur première question.
Oui, alors est-ce que vous pensez que le système financier actuel permet de résoudre le problème des inégalités?
Je ne sais pas. Moi, je suis très attentif à toutes les expériences dites de microfinance et aujourd'hui avec l'Internet de suppression en fait des banques, c'est-à-dire de contournement des banques par des établissements financiers qui en fait utilisent en gros le téléphone mobile pour organiser des transferts. Le système financier est fondamentalement dans l'histoire, un système qui a quand même, qu'on le veuille ou non, permis de lutter contre les inégalités. Je veux dire, comparer la France du XVIIe siècle et la France de la deuxième moitié du XXe siècle. On ne peut pas, évidemment, nier que le système financier des années 1950 était nettement moins inégalitaire ou favorable aux inégalités que le système financier précédent. Donc il y a indéniablement dans le système financier eu une ce qu'on appelle démocratisation. Maintenant, elle permet de lutter contre les inégalités plutôt en termes, je veux dire, d'accès au crédit. C'est bien ça qui s'est passé. Le système financier, fondamentalement dans les pays occidentaux, et notamment c'est le modèle américain, a été un système financier permettant d'inclure dans le système de marché les citoyens. Ce faisant, on voit bien qu'il a créé d'autres inégalités et que c'est chaque chose son temps. Et qu'aujourd'hui, on est face à un système financier qui produit aussi des inégalités en termes de concentration du pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir financier est extrêmement concentré à l'échelle internationale et qu'il est tellement concentré qu'il est capable d'être un lobby tellement puissant qu'il échappe à toute régulation. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on est dans une phase où, je dirais pour les systèmes, pour les pays occidentaux, hein, on est vraiment confronté à ce problème de d'inégalité face à l'argent. Dans les pays en développement, je pense que les expériences qui ont été menées autour de la microfinance ont montré que là encore, on pouvait disposer, on pouvait utiliser exactement hein, le système financier dès lors qu'il était qu'il avait des finalités bien fixées, qu'on pouvait utiliser le système financier comme un instrument extrêmement puissant de réduction des inégalités.
En même temps, la microfinance, ça permet d'accorder un crédit à ceux qui ont des projets rentables, mais ça ne résout pas la misère des gens qui sont soit trop vieux, soit trop malades pour recevoir un crédit.
Tout à fait. Alors, la rentabilité des projets, souvent le mot rentabilité est mal vu, mais je pense que c'est un élément essentiel d'apprentissage de la démocratie. Chacun doit apprendre, et c'est ça vraiment qui permettrait une démocratie économique très large, chacun doit apprendre à gérer un capital, un investissement, son travail, etc. Que ce soit dans les très grandes entreprises, où là, ça, sont trop grandes pour être gérées de façon, on va dire, démocratique, dans les entreprises de petite et moyenne, et dans les entreprises de petite taille. Maintenant, vous avez raison, la microfinance ne cible, n'intéresse, ne s'adresse qu'à une partie de la population de la planète, mais qui n'est pas négligeable, à mon sens. C'est la population qui... on va dire d'auto-entrepreneurs, etc. C'est une très grosse partie de la population du monde. Très, très grosse partie. Et j'y inclus dedans les paysans. Non pas les agriculteurs qui peuvent avoir entre 10, 30, 50 hectares, mais vraiment les paysans. J'imagine que dans les années, 60 en France, si le crédit agricole avait permis de financer aux petits paysans qui souvent ont été chassés de leurs terres des projets, il y aurait eu une moindre désertification des campagnes. Sur les populations dont vous parlez qui sont alors on va dire plutôt les deux types de populations, ceux qui n'ont pas par définition la bosse de l'entreprise, hein, ça ne va pas de soi, ça s'apprend dans la famille, etc. Et vous parlez des vieux. C'est pour moi très différent, là. D'abord, je suis un homme extrêmement conservateur. Je pense que la famille reste une institution absolument essentielle. La solidarité, elle passe d'abord par la solidarité du groupe familial. Ça ne veut pas dire qu'il faut enfermer les gens dans la solidarité familiale, mais je pense que considérer qu'il peut...
Mais certains n'ont plus de famille.
C'est très rare, parce que ce qu'on appelle la famille, peut-être en France, c'est la famille vraiment nucléaire, mais ça c'est parce que ces sociétés se sont desséchées complètement. Mais dans de très nombreux pays, ceux où je travaille, on a la famille élargie. Et la famille élargie, c'est la partie du village, c'est les cousins, les oncles, les tantes, etc. Il est rare en Afrique qu'un fils, par exemple, soit élevé par son père. Il est élevé, non pas par sa mère, mais par un oncle, par exemple. Et ça, vous le retrouvez, ce phénomène, un peu partout. Donc je suis personnellement pour l'entreprise familiale. Ça me permet, ça me paraît être une institution qu'on a trop vite passée aux oubliettes. Maintenant, il faut choisir sa famille. Donc on ne la choisit pas. Donc on peut penser que ce n'est pas suffisant, qu'il doit y avoir d'autres institutions, et je suis tout à fait pour. Mais au moins, il faudrait protéger cette institution-là, elle me semble importante. J'en parlais par rapport à ce que vous appelez les vieux. Je vois très bien que dans les familles, ou dans les sociétés où les familles sont restées une institution importante, le problème ne se pose pas des vieux. Le problème ne se pose pas. Ils sont pris en charge par la famille. Ils ont leur place. Ils peuvent toujours contribuer à quelque chose. Moi-même, nous avons repris possession de ce qui nous paraît positif dans l'institution familiale, et nous vivons avec une de nos mères respectives, qui est assez âgée maintenant, mais qui vit avec nous, parce que ça nous paraît quelque chose d'absolument essentiel, et on vit jusqu'au petit dernier de la génération, donc on a 1, 2, 3, 4 générations qui vivent sous le même toit ici et en dessous. Nous, ça nous paraît quelque chose d'absolument essentiel. Mettre, entre guillemets, les vieux, on voit bien ce qui se passe, dans des soi-disant institutions pour vieux, etc., c'est dramatique, c'est dramatique. On ne bénéficie pas de leur expérience, ce sont des gens qui peuvent toujours contribuer, même de façon très marginale, non seulement à la production familiale, je veux dire, la production familiale, c'est une réalité. On a beau la cacher, etc., je ne sais pas s'il vaut mieux acheter des plats surgelés que acheter des produits frais du paysan et les fabriquer chez soi. Donc, pour ce qui est des non-entrepreneurs, ben là, je pense qu'évidemment, la microfinance n'est pas la réponse. Mais la réponse, elle est de permettre... une microfinance, ce ne sont pas des entreprises individuelles, une seule personne. La microfinance contribue à lancer des entreprises qui ont pour vocation, parfois, à s'élargir. Donc, il faut faire attention à ça. Mais la démocratie économique, elle doit passer par la possibilité pour tous, de produire ce dont il a besoin. Ça, ça me paraît quelque chose qui a été complètement... évacué parce que la société dite salariale a été considérée à un moment donné comme le progrès nec plus ultra. Et je pense que c'est pas faux, c'était un immense progrès, mais en enfermant tout le monde dans le monde salarial, on est tombé dans un monde kafkaïen. Le salariat, c'est aussi quand même fondamentalement une aliénation extrêmement forte. Aliénation dans une institution, et plus l'entreprise est grande, et plus l'entreprise est aliénante. Voilà.
D'accord.
Donc oui, le système financier peut, pas beaucoup, et il doit surtout. C'est un élément essentiel pour réduire les inégalités.
Qui a intérêt à ce que les États-nations défendent leurs propres intérêts ?
Alors vous dites État-nation, et moi je vais enlever le mot nation.
Oui.
Je vais rester au niveau des États. Parce qu'il n'y a pas que des États-nations.
Oui, oui.
États-Unis, c'est difficile de dire que c'est un État-nation en tant que tel, c'est tellement multinational. Mais qui intéresse que les États continuent de défendre leurs propres intérêts ? Eh bien, les technostructures. Et c'est le mal du XXIe siècle. Et j'étais très frappé, notamment par un livre que je trouve très puissant.
Mais qui c'est pas... Enfin,
qui, là, ce sont des groupes d'intérêts, non ? Qui, ce sont des groupes d'intérêts ?
Donc, ce n'est pas des gens en particulier, c'est...
Ce sont des gens en particulier, mais qui appartiennent. Personne n'existe individuellement, vous savez, dans un État.
Mais donc, qui appartient à ces technostructures ?
C'est la reproduction sociale à la Bourdieu qui s'est constituée en groupe. On le voit bien en France. Vraiment, l'autoreproduction est très très forte. Quand vous prenez l'origine, on voit bien que, par exemple, en gros, le schéma grandes écoles... Et l'élément central du pouvoir en France. Je ne connais personne qui ne soit pas issu d'une grande école. Et quand il l'est comme tapis, il est tout de suite montré du doigt, éliminé. Donc fondamentalement, on a ça. Dans les autres pays, c'est variable. Chaque pays ayant sa... étant une société différente, elle produit des technostructures différentes.
D'accord, mais... donc c'est ceux qui dirigent en fait, c'est ça ?
Ce sont les classes, parce que j'aime bien utiliser l'expression classe sociale, je ne comprends pas pourquoi c'est un gros mot. Ce sont les classes qui se sont organisées un peu partout dans le monde, mais variables selon les pays. En Chine, c'est très nettement le groupe qui contrôle le Parti communiste chinois, qui aime beau avoir 50 à 60 millions de membres. En réalité, on estime que 5000 personnes contrôlent la Chine. En France, moi, j'estime qu'en gros, on est à peu près 1 millier de personnes. Vous voyez que c'est très peu, très très peu. Et dans tous les pays, on a observé ça. Et pourquoi ? Parce que, il ne faut pas leur lancer la pierre. C'est un mécanisme à la Olson. Mancure Olson est un grand sociologue. Un grand sociologue. Il a montré comment, au fur et à mesure que les États se stabilisaient après des grandes crises ou des guerres, etc., le pouvoir se grippait autour de règles, de mécanismes de recrutement de l'élite. Et je pense qu'effectivement, on ne sait pas aujourd'hui comment se débarrasser de ce mécanisme. Alors, c'est peut-être les élites, je crois qu'un certain nombre de travaux sont faits aujourd'hui sur ce concept-là. Peut-être que c'est ça, je ne me rends pas bien compte. J'ai beaucoup étudié le cas de Barack Obama aux États-Unis, parce que c'est un cas extrêmement intéressant, où là, manifestement, il ne rentre pas dans ce cadre-là. Quand vous suivez la vie de Barack Obama, vous avez quand même affaire à un citoyen...
Il a quand même fait Harvard.
Oui, mais il ne l'a pas fait du tout comme étudiant.
Vraiment ?
Non. Barack Obama a étudié à Harvard dans le cadre d'une sorte de post-graduate ou de... Mais il a... Non, non, il n'a pas été un étudiant d'Harvard en tant que tel. Il est allé à Harvard ensuite, mais non, non, c'est très intéressant. Et là, c'est, je dirais, c'est le contre-exemple. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il a précisément été un outsider qui a compris que pour être insider, il fallait rentrer dans les institutions du système. Et donc, il est rentré au Parti démocrate, il est allé à Harvard, etc. Et la question de Obama, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il est devenu une fois qu'il est rentré dans le système? C'est toujours la question de tous. Hein. Je pense qu'il a un peu apporté, quand même, en donnant un coup de pied à la fourmilière américaine. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte ce que ça veut dire aux États-Unis d'avoir un président noir. Il suffit de voir comment la majorité républicaine réagit. Donc il n'a pas totalement échoué dans son objectif, on va dire, d'entrisme, puisque c'est comme ça qu'il faut définir les choses. Mais on voit bien aussi qu'il a des marges de manœuvre qui étaient extrêmement réduites. Mmh. Voilà. Donc ça, c'était la réponse à votre question. Alors maintenant, vous vouliez dire, est-ce que je dois rajouter quelque chose? Parce que je n'ai rien à rajouter à vos questions remarquables.
D'accord, très bien.
Merci beaucoup, Jean-Joseph Boyau, pour cette interview très intéressante. Je vais finir par le traditionnel triptyque de fin. Alors, le fait économique dont je vais parler aujourd'hui est assez triste. C'est la famine qui a subi entre 2010 et 2012 en Somalie, où 260 000 personnes ont péri, dont la moitié d'enfants, ce qui fait 10% des enfants de moins de 5 ans du sud de la Somalie. La référence économique que je vais donner aujourd'hui, c'est REPEC, R-E-P-E-C, qui rassemble tous les articles d'économie à ce jour. Alors, ils ne sont pas tous en accès libre. Enfin, la citation est une citation d'Amartya Sen, date de 2003. « Jamais une famine n'est survenue dans un pays respectant les règles démocratiques et le multipartisme. » Merci et à bientôt.